Absolument, en remplacement, vous l'avez remarqué, là, sans doute, de Michel Langevin, en congé ce matin. Rock l'est aussi. Rock, ça a l'air parti pour un bon bout de temps, Mathieu.
Écoute, le gazon est en train de pousser sur son clavier, il paraît. Là.
Ah oui? Tu l'utilises pas? Clavier de Rock. Richard qui est parti également. Alors, on sent tranquillement que le beau temps revient, qu'une couple de vacances. Je suis de retour moi-même ce matin. On va parler de ce qui, en fin de semaine, ce qui a retenu vraiment l'attention, c'est la coalition Avenir Québec, le plan vert. Tu peux pas être plus vert que ça, que François Legault. C'était le mot qui remartelait au cours de la fin de semaine.
François Legault a fait, selon moi, est-ce qu'il va se réaliser son plan vert? Je suis pas là pour commenter ça. Rappelle-toi, le Québec avait certains objectifs en matière de recyclage, de compostage qui nous mettaient en 2010 ou en 2015 avec certains niveaux qu'on n'a pas atteints. On a, repoussé ça en 2020. Je ne suis pas certain qu'on va les atteindre. Et dans le cas d'électrification de François Legault, je ne suis pas certain non plus qu'on va les atteindre, mais tout de même, François Legault, en prenant une journée complète où les membres de la CAQ étaient réunis, il a en quelque sorte mis un couvercle sur la marmite de ses adversaires. Je m'explique. On regarde aller depuis l'élection qui était le 1er octobre, ça va faire 8 mois bientôt, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois se cherchent. Dans les deux cas, on n'est pas capable de pogner le parti au pouvoir. Mm-hmm. Quand tu es dans l'opposition, le but, c'est de contrôler l'agenda. L'agenda, c'est quoi?
Faire dévier les sujets.
Le parti au pouvoir annonce X, puis toi, tu arrives avec un sujet Y qui bouffe la place dans l'actualité du sujet X du parti au pouvoir. Et là, François Legault, son talon d'Achille était sans contredit l'environnement. Honnêtement, j'ai pas étudié les plateformes des trois principaux partis politiques. En fait, des quatre principaux, j'ai inclus Québec solidaire. Mais visiblement, Legault était en arrière. En tout cas, du moins, c'était la perception qui était sur la place publique. Là, en sortant ce plan-là, il vient de se mettre, sincèrement, beaucoup d'atouts dans son jeu. Pourquoi? Parce qu'à la prochaine campagne, ses adversaires ne pourront pas dire « Oui, 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 tu vas avec des promesses en l'air, t'es en pleine campagne électorale. » Non, il l'a annoncé 8 mois après avoir pris le pouvoir. Et dans le cas de Legault, moi, a remarqué sa façon d'approcher ses ministres. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, quand tu es à la présidence d'une entreprise, tu délègues. Je veux dire, c'est pas toi qui passe la mop dans le corridor. Et hier, il a réutilisé la phrase qu'il utilise depuis le début. Cette fois-là, c'était Benoît Charrette, son ministre de l'Environnement. « J'ai demandé à Benoît de... »
Mm-hmm.
C'est toujours ça qu'il utilise comme façon de faire. J'ai demandé à Sonia Lebel, sa ministre de la Justice. J'ai demandé à Jean-François Roberge. Donc, il délègue énormément. Et dans son cas, cette façon de faire-là, cette façon de chef d'entreprise, ça lui sert un peu de pare-feu. Peut-être qu'il est conscient, peut-être qu'il en est inconscient. Rappelle-toi, il y a eu une première ministre de l'Environnement dont le nom m'échappe déjà. Elle s'est fait dégommer, ça n'a pas pris de temps parce que, écoute, elle s'enfargeait dans ses lacets de bottines dans le hall d'entrée de l'Assemblée nationale. Écoute, elle avait une déclaration à faire, elle parlait, elle lisait son texte, puis finalement, t'es pas capable de répondre aux questions, fait qu'il l'a tout simplement tassé. Et le fait qu'il mette une forme de pression sur ses ministres, si les ministres ne livrent pas, j'ai demandé à Benoît de A, B, C.
Prend des résultats.
Dans 12 mois, Benoît n'est pas capable de livrer A, B, C. Il va revenir devant la presse. J'avais demandé à Benoît A, B, C. Il ne l'a pas livré, fait que je le sac dehors. Ça donne... Est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient, comme je l'ai dit? Mais ça lui donne un certain pouvoir et une certaine distance et surtout une certaine pression à faire face à ses ministres qu'ils doivent livrer. C'est le principe un peu Renan Gélil. Renan Gélil criait pas après le monde.
Mmh.
il mettait une forme de pression que j'ai confiance en toi, tu vas faire ça, tu vas le réaliser. Pas besoin de toujours crier dans la vie pour atteindre ses objectifs. Et c'est une façon de faire qui est peut-être un couteau à deux tranchants.
Faudra voir c'est quoi l'échéancier, parce que tu peux toujours avoir un projet qui est en cours.
Ben là, dans le cas de l'électrification, écoute, on est en 2030.
Ben là, c'est ça.
On a le temps d'avoir
un autre gouvernement.
Écoute, on a le temps d'avoir au moins trois autres élections provinciales.
Exact, c'est pour ça que je dis.
Mais tout de même, il a dans son carnet un plan de match. Et les Verts, à travers le pays, gagnent un peu de terrain. Rappelez-vous, à l'élection de l'Île-du-Prince-Édouard en avril dernier, 6 jours avant le vote, les Verts étaient en avance dans les sondages. Bon, peut-être que les gens se sont rendus compte, aïe aïe, les Verts vont-tu vraiment prendre le pouvoir?
Ça passait proche.
Tu sais, certains en Ontario ont frais en mémoire le NPD de 1990 avec Bob Rae, où est-ce qu'après le règne de David Peterson, écoute, on s'est retrouvé sous les dettes, mais c'était c'était le bordel dans la province. Bang, est arrivé le contrepoids, Mike Harris. Mais tout de même, est-ce que les gens, à 6 jours du vote, ils ont dit « c'est-tu vraiment les Verts qui vont prendre le pouvoir? Je suis pas sûr, je suis pas sûr qu'ils savent gérer, etc. » Parce que, tu sais, il y en a qui sont bien bons pour critiquer dans la vie, mais quand il vient le temps de prendre le pouvoir, ben ça, c'est une autre affaire. Et sur le bord de la piscine, ils ont dit « ben finalement, on saute pas. » Mais toujours est-il que les Verts prennent du galon, peut-être pas pour prendre le pouvoir, mais c'est à considérer.
20 fois dans une année à l'urgence.
Oui, ça, c'est Marie-Hélène Blais. C'est une ex-infirmière. Elle est maintenant rendue étudiante au doctorat. Elle sera ici dans le cadre du congrès que tu reçois le recteur dans quelques instants. Et à l'époque où elle était infirmière dans le centre du Québec, à un moment donné, ben, c'est parce qu'elle commençait à connaître les patients par leur petit nom. C'est pas tellement bon signe.
Ah, mon Mathieu, t'es encore ici ce matin?
Oui, c'est ça. Comment ça va, mon Mathieu? Bon, elle est étudiante au doctorat. Elle était infirmière. Quand elle était infirmière, est-ce qu'elle était déjà à sa maîtrise? Je ne sais pas, mais bref, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ça fait combien de temps tout ça? Et là où est-ce qu'il faut observer la situation, c'est depuis la réforme, depuis l'arrivée des super cliniques, est-ce que ça s'est amélioré? Parce que dans le Journal de Montréal, on peut lire, ben, tu sais, je veux dire, tu te casses la cheville sur le trottoir en hiver, va pas au CLSC, ils te feront pas de plâtre, là.
Mm-hmm.
Mais dans certains cas, où est-ce que t'as, je sais pas, moi, t'as mal à la tête, t'as des...
Renouvellement de pilule.
Y a-tu moyen d'aller dans une clinique? Y a-tu moyen d'aller dans une autre alternative? Et c'est là que ça sera, je pense, à la suite de cet article-là, c'est la suite des choses qui sera importante et surtout se situer dans le temps. Est-ce qu'on s'est vraiment amélioré au Québec? Les médecins ont eu plus de pression pour prendre plus de patients. Gaétan Barrette, à l'époque où il était candidat de la CAQ, je dis bien candidat de la CAQ, en 2012, il avait dit être un médecin au Québec, c'est la plus grosse job à temps partiel parce qu'il y en a plusieurs qui travaillent 15-20 heures semaine. Et puis, oui, il y a beaucoup de médecins, mais il y en a plusieurs qui font peu d'heures. Et là, on a mis de la pression, mais je pense que ce serait important de revoir, de reprendre une photographie 2019 pour voir est-ce que l'urgence, c'est encore la place ou est-ce que, ben, tu sais, ma blonde m'a laissé, mon chum m'a laissé, je file pas. Je veux dire, c'est peut-être pas la place où se rendre dans le système de santé.
Exact. Mais ce sera intéressant de voir ce qu'on dit de ce rapport-là au congrès.
Oui.
Ça dure toute la semaine, d'ailleurs, ici à Gatineau, le congrès de l'ACFAS. Il
faudra positionner ça dans le temps.
Une grande roue comme attraction touristique.
Écoute, Roch-Cholette a souvent parlé que ça prendrait une grande roue. Il avait été à celle de Montréal, celle de Rome, celle de Londres. Ce week-end, je me suis rendu à celle de Montréal, mon Mario.
Eh bien, voyons donc, t'es sérieux?
Écoute.
Ça, c'est dans le Vieux-Port, hein?
Dans le Vieux-Port, exactement. Ouais, hein? Tu roules sur Saint-Denis, tu vois la grande roue illuminée au loin, c'est pas si pire. Tu te stationnes, moi je m'étais stationné pas loin de l'autoroute 720, un stationnement pas loin de l'hôpital chinois.
Mmh.
Tu vois la grande roue au loin, c'est pas si pire. Et là, tu passes par-dessus les terrains de l'hôtel de ville, tu descends la place d'Armes, si je me trompe pas.
Exact.
Et là, tu vois que la grande roue a grossi de plus en plus.
Ben là,
et t'arrives au pied de la grande roue.
Et?
Moi qui ai le vertige, là, écoute, j'avais un ton, j'avais un teint un peu plus verdoyant.
Ouais.
Mais toujours est-il que, et là, à un moment donné, t'achètes tes billets, Puis là, ben, tu dis, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix. Faut que j'y aille.
En as-tu vraiment besoin de monter en haut?
Écoute. Le premier tour, pas en plus, on... Tu sais, tu t'imagines la grand roue, là, que c'est...
Oui.
Imagine-toi une horloge, là.
Oui.
Bon, ben, au premier tour, nous autres, on a arrêté, il était à peu près une heure. On était à 50 et quelques mètres.
Ouais.
C'est
au
une
vent.
Grandeur de... Non, ça ballotte pas.
Non.
S'entend, t'es dans des cabines fermées.
Okay.
Mais tout ça pour dire que ça prend ça dans la région.
Une grande roue?
Ah, Mario. Tu parles d'un spécialiste du vertige qui monte sur le toit d'un bungalow et c'est tout.
Ouais.
Tout.
Parce que la toiture est vraiment finie.
Non, parce que c'est assez haut.
Oui.
Tu sais,
okay,
je veux dire à peu près 15-18 pieds.
Ouais.
Là. C'est en masse pour Mathieu. Écoute, ça prend ça pour la région parce que nous, on est partis de Saint-Jérôme. On est arrêté à Laval, les filles ont joué dans un jeu de trampoline, c'était la fête de la plus vieille, et puis on est descendu là, mais exclusivement pour ça.
Oh, ouais.
C'est une attraction touristique. Et imagine-toi ça dans le secteur Hall, tu verrais les collines, tu verrais tout le secteur Hall, Ottawa, le Parlement, la rivière, la courbature de la rivière des Outaouais, tu verrais les chutes, tu verrais les différents musées, tu verrais la région comme tu ne peux pas la voir.
Mm-hmm.
Moi, de la Grand Roue, là, je voyais Longueuil, Saint-Lambert, le circuit Gilles-Villeneuve, je me retournais, je voyais la palissade de gratte-ciel dans le centre-ville de Montréal, je voyais l'hôtel de ville, le marché Bonsecours. Tu vois ça d'un œil que tu ne peux pas le voir et ça demeurait une attraction touristique. Sincèrement, là, ça prend ça pour la région. Tu sais, puis là, je ne veux pas devenir un pisse-vinaigre, mais est-ce que les gens se rendraient à Hall pour voir le quartier du musée ou ils se rendraient à Hall pour la Grande Roue? Poser la question, c'est y répondre.
Ouais.
Et on a, malheureusement... On a un casino ici comme attraction touristique, mais tu as des enfants en bas de 18 ans, Mario. Tu peux pas aller voir un spectacle là.
On a une grande roue, Mathieu. Et 4 jours par année, là, au Parc Labbé.
Ah non, écoute, des affaires tout rouillées.
On change de modèle cette année.
Merci,
on pas
dans la même catégorie.
On se reprend tantôt dans la chaloupe. Ce sera ma première avec toi à 8h40 ce matin.